Le déjeuner fut tranquille. On donnait à la graine semée la veille le temps de germer et de pousser ses fruits. La comtesse proposa de faire une promenade dans l'après-midi. Alors le comte, comme il était convenu, prit le bras de Boule de Suif et demeura derrière les autres, avec elle. Il lui parla de ce ton familier, paternel, un peu dédaigneux, que ces hommes posés emploient avec les filles, l'appelant « ma chère enfant », la traitant du haut de sa position sociale, de son honorabilité indiscutée. Il pénétra tout de suite au vif de la question. « Donc vous préférez nous laisser ici, exposé comme vous-même à toutes les violences qui suivraient un échec des troupes prussiennes, plutôt que de consentir à une de ces complaisances que vous avez eues si souvent en votre vie ?» Boule de Suif ne répondit rien. Il la prit par la douceur, par le raisonnement, par les sentiments. Il sut rester monsieur le comte, tout en se montrant galant quand il le fallut, complimenteur aimable, enfin. Il exalta le service qu'elle leur rendait, parla de leur reconnaissance, puis, soudain, la tutoya gaiement. « Et tu sais, ma chère, il pourrait se vanter d'avoir goûté d'une jolie fille comme il n'en trouvera pas beaucoup dans son pays. » Boule de Suif ne répondit pas et rejoignit la société. Aussitôt rentrée, elle monta chez elle et ne reparut plus. L'inquiétude était extrême. Qu'allait-elle faire? Si elle résistait, quel embarras. L'heure du dîner sonna. On l'attendit en vain. Monsieur Follenvie, entrant alors, annonça que Mademoiselle Rousset se sentait indisposée et qu'on pouvait se mettre à table. Tout le monde dressa l'oreille. Le comte s'approcha de l'aubergiste et tout bas. « Ça y est ?»« Oui. » Par convenance, il ne dit rien à ses compagnons, mais il leur fit seulement un léger signe de la tête. Aussitôt, un grand soupir de soulagement sortit de toutes les poitrines. Une allégresse parut sur leur visage. L'oiseau cria. « Saperlipopette ! Je paye du champagne si l'on en trouve dans cet établissement. » Et Madame Loiseau eut une angoisse lorsque le patron revint avec quatre bouteilles aux mains. Chacun était devenu subitement communicatif et bruyant. Une joie grillarde emplissait les cœurs. Le comte parut s'apercevoir que Madame Carré-Lamadon était charmante. Le manufacturier fit des compliments à la comtesse. La conversation fut vive, enjouée, pleine de traits. Tout à coup, l'oiseau, la face anxieuse, et levant les bras, hurla « Silence !» Tout le monde se tut, surpris, presque effrayé déjà. Alors il tendit l'oreille en faisant « Chut !» des deux mains, leva les yeux vers le plafond, écouta de nouveau et reprit, de sa voix naturelle, « Rassurez-vous, tout va bien. » On hésita à comprendre, mais bientôt un sourire passa. Au bout d'un quart d'heure, il recommença la même farce, la renouvela souvent dans la soirée, et il faisait semblant d'interpeller quelqu'un à l'étage au-dessus, en lui donnant des conseils à double sens, puisés dans son esprit de commis-voyageur. Par moments, il prenait un air triste pour soupirer. « Pauvre fille !» Ou bien il murmurait entre ses dents, d'un air rageur, « Gueux de Prussien, va !» Quelquefois, au moment où l'on n'y songeait plus, il poussait d'une voix vibrante « Assez, assez !» et ajoutait, comme se parlant à lui-même, « Pourvu que nous la revoyons, qu'il ne l'en fasse pas mourir, le misérable !» Bien que ses plaisanteries fussent d'un goût déplorable, elle amusait et ne blessait personne, car l'indignation dépend des milieux comme le reste, et l'atmosphère qui s'était peu à peu créée autour d'eux était chargée de pensées grivoises. Au dessert, les femmes elles-mêmes firent des allusions spirituelles et discrètes. Les regards luisaient. On avait bu beaucoup. Le comte, qui conservait, même en ses écarts, sa grande apparence de gravité, trouva une comparaison fort goûtée sur la fin des hivernages au pôle et la joie des naufragés qui voient s'ouvrir une route vers le sud. L'oiseau, lancé, se leva, un verre de champagne à la main. « Je bois à notre délivrance !» Tout le monde fut debout, on l'acclamait. Les deux bonnes sœurs, elles-mêmes, sollicitées par ces dames, consentirent à tremper leurs lèvres dans ce vin mousseux dont elles n'avaient jamais goûté. Elles déclarèrent que cela ressemblait à une limonade gazeuse, mais que c'était plus fin cependant. L'oiseau résuma la situation. « C'est malheureux de ne pas avoir un piano, parce qu'on pourrait pincer un quadrille. » Comudet n'avait pas dit un mot, pas fait un geste. Il paraissait même plongé dans ses pensées très graves, et tirait parfois d'un geste furieux sa grande barbe qui semblait vouloir s'allonger encore. Enfin, vers minuit, comme on allait se séparer, l'oiseau qui titubait lui tapa soudain sur le ventre et lui dit en bredouillant « Vous n'êtes pas force, vous, ce soir ?»« Vous ne dites rien, citoyen !» Mais Comudet releva brusquement la tête et, parcourant la société d'un regard luisant et terrible, « Je vous dis à tous que vous venez de faire une infamie !» Il se leva, gagna la porte, répéta encore une fois « Une infamie !» et disparut. Cela jeta un froid d'abord. L'oiseau interloqué resta bête. Mais il reprit son aplomb, puis, tout à coup, il se tordit en répétant « Ils sont trop verts, mon vieux, ils sont trop verts !» Comme on ne comprenait pas, il raconta les mystères du corridor. Alors, il y eut une reprise de gaieté formidable. Ces dames s'amusaient comme des folles. Le comte et M. Carré-Lamadon pleuraient à force de rire. Ils ne pouvaient croire.
« Comment ? Vous êtes sûr ? Il voulait ? Je vous dis que je l'ai vue. Et elle a refusé, parce que le Prussien était dans la chambre d'à côté. Pas possible ! Je vous le jure, le comte étouffait. L'industriel se comprimait le ventre à deux mains. L'oiseau continuait. Et vous comprenez, ce soir, il la trouve pas drôle, mais pas du tout. »
Et tous les trois repartaient, malades, essoufflés, toussant. On se sépara là-dessus. Mais Madame Loiseau, qui était de la nature des orties, fit remarquer à son mari, au moment où il se couchait, que cette chipie de petite Carré-Lamadon avait ri jaune toute la soirée. Tu sais, les femmes, quand ça en tient pour l'uniforme, qu'il soit français ou bien prussien, ça leur est, ma foi, bien égal. Si ce n'est pas pitié, Seigneur Dieu !» Et toute la nuit, dans l'obscurité du corridor, coururent comme des frémissements, des bruits légers, à peine sensibles, pareils à des souffles, des effleurements de pieds nus, d'imperceptibles craquements, et l'on ne dormit que très tard, assurément, car des filets de lumière glissèrent longtemps sous les portes. Le champagne a de ces effets-là. Il trouble, dit-on, le sommeil.